terre. La caméra, elle fait ce qu'on lui dit. La caméra n'existe pas comme chose. La caméra n'est pas créative. Donc, c'est la personne qui fait le film, on va dire le réalisateur ou autrice, et le chef opérateur, les deux. S'ils ont une vision de ce qu'ils demandent à la caméra peut danser, la caméra peut calme. Il y a quelquefois rien de plus beau qu'un plan fixe. Donc, voilà, on n'est pas toujours en train de danser. La caméra, c'est un intermédiaire entre la vision de ceux qui font le film, ceux qui l'ont écrit, ceux qui le réalisent, ceux qui sont à la caméra, comme on dit. Et un intermédiaire entre ça et ce qu'on veut faire sentir.
Ce soir, second épisode de la série que nous consacrons à Agnès Varda, Varda, l'irrévérencieuse. Hier, autobiographie d'Agnès par Varda. Ce soir, second épisode, Agnès fait son cinéma. En première partie, vous allez entendre la voix d'Agnès sur son cinéma, enregistrée chez elle en janvier dernier, rue Daguerre, puis le témoignage de l'universitaire Dominique Bluer, avant de terminer avec un entretien que nous avons retrouvé dans les archives de Radio France, dans l'émission de Serge Danet qui s'intitulait « Microfilm », entretien entre Agnès Varda et Serge Danet, daté du 8 décembre 1985. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Corinne Marchand, Sans toi.
Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi. Sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps à vide, sans toi, sans toi, rongé par le cafard. Au cercueil de verre, je me couvre de rire sans toi, sans toi. Et si tu viens trop tard, on m'aura mis en terre. Sans toi, sans toi.
Et pour commencer cette seconde émission, je vous propose de réécouter une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Agnès Varda. C'était le 29 janvier dernier.
J'en ai ras-le-bol de moi, ça c'est sûr. Mais il semble que les autres, pas tout à fait. J'ai eu une première rétrospective en 1994. J'avais déjà 40 ans de cinéma dans le dos. Et c'est Dominique Paigny qui m'avait invité. Je ne pensais pas que 25 ans après, il y en aurait une autre. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a 65 ans que je travaille, ça veut dire. Mais donc, là, c'est Frédéric Bonneau et son équipe qui m'ont invité, qui ont fait un programme. Et tu as raison de dire, s'il y a des gens qui ont envie de connaître les films, on ne va pas s'en empêcher. Il y a eu certaines séances qui étaient très pleines. Et moi, j'avais accepté d'aller présenter plusieurs séances. Et je suis très frappée, moi, de la curiosité et de l'enthousiasme des gens qui vont voir les films. Parce que, en fait, ça devrait me flatter, mais ça me fait surtout plaisir. Ça veut dire qu'on ne fait pas du cinéma pour personne. Ça veut dire que le cinéma s'adresse quoi, à des gens. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup qui ne connaissent pas, qui ont entendu parler de moi, de mes cheveux à deux couleurs, des trucs comme ça. Et tout d'un coup, ils se piquent au jeu. Ils commencent à voir des films. J'ai rencontré 2-3 personnes qui sont venues me dire très gentiment, vous savez, j'ai vu au moins 15 films depuis que ça compte. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui m'a dit, j'ai presque tout vu. Mais vous l'avez pas vu avant. Non, ce qui est assez beau, c'est parce que c'est un grand écran. Un bon écran. Et que voir le cinéma dans sa splendeur de technique, c'est quand même autre chose que de le regarder sur le téléphone. Et c'est ça qui est le beau travail de la cinémathèque. C'est d'arriver à emmener les jeunes voir des films dans des conditions de cinéma. Ça, ça fait plaisir. Et ils sont contents d'avoir du monde. Donc, tout ça, ça se passe dans le fait qu'aimer le cinéma, quoi. Ça amène du partage, du plaisir, des questionnements, évidemment. Mais c'est la réalité qui donne des idées. C'est-à-dire, c'est l'émotion que procure la réalité qui te dit, mais il faut que j'en parle. Il faut que je les filme. Et justement, dans Visage Village, où il n'y avait pas de revendication, mais juste l'observation de gens qu'on ne connaît pas très bien. Quand on a passé pas mal de temps dans cette usine chimique, qui est même dangereuse, si tu veux, et la gentillesse des gens, leur surprise, au fond, on les faisait rire, ça leur faisait du bien. Quand je leur ai dit qu'il y avait un château d'eau, tu sais, et on a dit, mais écoutez, il n'y a pas d'eau dedans, mais si on mettait des poissons. Alors on a commencé à dessiner des grands poissons, photographier des poissons, les mettre là. Et ça les fait rire, et ils se disent, au fond, les artistes, ça a l'air un peu idiot, mais ça finit par faire quand même quelque chose sur les gens. Une espèce de fantaisie, une idée que la vie n'est pas forcément complètement codifiée, complètement répétitive. Alors moi, évidemment, elle n'est pas trop répétitive, parce que, comme disait Brassens, plus de 3 fois en un seul jour, content, pas content, content, et plus 10 fois en un seul jour, une idée, pas d'idée, une idée, pas d'idée, dodo. Je trouve que je n'ai pas beaucoup d'imagination. C'est juste une façon de regarder qui éclaire les choses, qui les rend plus belles qu'elles sont peut-être. Parce que j'ai jamais pensé à des choses, ni du cosmos, ni du science-fiction. Ça, c'est des gens qui ont vraiment de l'imagination. Moi, je n'ai pas ça. J'ai plutôt un regard curieux, un peu amusé, facilement ému quand même aussi. Donc, c'est agréable de ne pas être complètement sec dans la vie. Ouais. Mais je voyage moins maintenant, je ne veux plus trop bouger. Je commence à fatiguer un peu. Mais bon, ça tiendra ce que ça tiendra, comme on dit. Je fais ce que je sens. Et pour le moment, je suis aidée, puisque je peux le faire. Mais je n'ai pas de prétention. Je pense que exprimer par des moyens divers, comme la photographie, la vidéo, le cinéma, l'espace... Ah ben oui, mais tu sais, j'ai commencé avec des appareils archaïques de photos. Et puis après, évidemment, je peux passer à des choses. Et mais quand il y a eu ces petites caméras, je me suis jetée dessus. Parce que non seulement c'est facile et amusant, mais c'est une autre façon d'aborder les gens. C'est que c'est pas la technique qui est importante. C'est comment un moyen nouveau te fait faire une autre approche de ce que tu vois, des gens que tu rencontres et tout ça. J'aurais pas pu faire les glaneurs s'il n'y avait pas les petites caméras où je pouvais filmer souvent toute seule. Mais comme c'est un petit appareil, ça fait moins peur. Et puis en plus, leur dire ce que je fais. Je me positionne toujours comme quelqu'un qui fait un documentaire et qui souvent vit dans des conditions bien meilleures qu'eux, mais qui a choisi ce métier. Donc, il y a quand même un partage de réflexion parce qu'il ne s'agit pas de voler des images, tu vois. Il s'agit d'avoir l'accord de ceux qui comprennent que de montrer leurs difficultés peut-être fait penser les autres, fait penser autrement. C'est toujours des points de vue qu'on a, moi-même, où j'apprends à faire glisser mon point de vue autrement, par quelque chose qu'on m'a dit, par quelqu'un qui m'a appris, ou quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Et donc, j'allais dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est une incroyable, un moteur d'apprendre et puis de se contenter aussi. Et puis c'est vrai que les autres artistes, les peintres, qui ont ce qu'ils font de la réalité. Certains grands photographes, les cinéastes, comment ils traitent la réalité, comment ils l'abordent en rythme ou en regard. Il y a des films extraordinaires, des films de Tarkovsky ou Korismaki, je prends des gens comme ça, tout à fait différents, des gens qui regardent autrement. Godard a été un de ceux qui a fait tout à fait virer la façon de regarder le rythme des choses, comment il comprenait la vie, comment il a... Rappelle-toi un film comme Weekend, comment il épinglait tout d'un coup, mais avec une forme éblouissante, comment il épinglait des choses qui se passaient, comment il remarquait et mettait en plus que lumière, en projecteur, des situations comme le rapport aux voitures, des choses comme ça. Non, il y a eu quand même des artistes qui ont... Par contre, je trouve que son travail maintenant est un peu difficile à comprendre, parce que très, très abstrait. Et je pense qu'un peu avant, il avait trouvé une forme où on pouvait accrocher, on pouvait rentrer dans son univers qui est quand même particulier, intelligent, mais des fois un peu raide. C'est surtout continuer à considérer qu'on est un peu des chercheurs,
ouais,
et pas des systématiquement utiliser des trucs. Moi, à chaque film, j'essaie de faire autre chose, effectivement.
Voilà, nous sommes émus en écoutant de nouveau la voix d'Agnès Varda, qui s'est éteinte il y a très peu de temps, qui reste présente dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans notre vie, et qui a un avenir tout tracé devant elle, parce que nombreux sont les jeunes qui l'idolâtrent, nombreux sont les personnes aussi qui viennent visiter sa tombe encore aujourd'hui, et qui viennent lui rendre hommage, rue Daguerre, où elle a résidé depuis si longtemps. Ce soir, seconde émission consacrée à Agnès V. En votre compagnie, Dominique. Dominique Bluer, vous êtes à la fois universitaire, enseignante, chercheuse. Vous avez eu la chance de faire deux expositions et deux rétrospectives avec Agnès Varda à Harvard et à Chicago. Vous étiez très proche d'Agnès Varda. Les propos que vous venez d'entendre, vous les considérez comment ? Qui est Agnès Varda pour vous aujourd'hui ? Et que représente-t-elle ?
J'ai eu la chance de la connaître. J'espère que d'autres ont encore la chance de connaître ou de découvrir les films. Agnès, ce qui était incroyable quand Agnès était présente dans une salle, c'est ce qu'elle transmettait aux spectateurs. Bon, peut-être il y a un film qui, ou plusieurs films qui retracent aussi ce retour. Elle donnait énormément aux gens, et les gens leur faisaient des cadeaux. Elle a dû faire tout un film pour exprimer sa reconnaissance par rapport aux gens qui avaient réagi si vivement au glaneur et la glaneuse. Et puis Agnès, quand j'ai l'occasion, la chance en fait, malheureusement je peux dire aussi, de faire découvrir ces films à des jeunes étudiants. Bon, d'une part, ce qui me rend un peu triste, c'est qu'elle est moins connue qu'elle le mérite. J'espère que ça va encore changer et changer. Mais en même temps, elle a un impact formidable sur ces jeunes. Et pour eux comme pour moi, elle devient une sorte de modèle. En français, c'est pas très joli le mot modèle. C'est, en anglais, on dit role model. C'est une image dans laquelle on peut se projeter. Elle signifie tellement de choses pour nous. Elle signifie cette incroyable énergie, cette, comme elle disait, curiosité, cet intérêt à la vie, ce regard qu'elle a eu sur les autres et notamment aussi les autres qui sont en marge de la société, mais qu'elle traitait aussi allègrement qu'un grand cuisinier ou un peintre de renommée internationale. Donc ça, c'est quelque chose qui porte énormément, son énergie. Et de voir une femme de 80 ans, ou après même plus âgée, avoir cette force, cette inventivité, ça nous donne envie de vieillir. Ça nous encourage de continuer à chercher, de partager, à découvrir des choses. Et c'est pas seulement par rapport à l'art, mais c'est par rapport à l'environnement. Agnès disait que Godard avait changé le rapport à la voiture Agnès a changé notre rapport à la pomme de terre.
Dominique Bluer, Agnès Varda disait de vous que vous étiez la seule à connaître si bien son travail, tout en étant une amie, que vous étiez une orfèvre. Et elle répétait sans arrêt que vous étiez très très sérieuse et que vous la considériez comme quelqu'un d'important. Pouvez-vous nous retracer, vu de Chicago, l'importance d'Agnès Varda en tant que cinéaste? Est-elle une cinéaste du XXe siècle ou plutôt une cinéaste du XXIe siècle? Va-t-elle traverser le temps? Va-t-elle continuer à être honorée, pas seulement par des hommages dans les cinémathèques du monde entier, mais va-t-elle aussi donner de l'énergie, ça c'est un mot très important pour parler d'Agnès Varda, de l'énergie, de la vitalité et du désir aux jeunes générations pour continuer sur l'élan et les chemins qu'elle a initiés?
100%. C'est étonnant l'impact que peuvent avoir les films sur les spectateurs et les spectatrices. Il y a deux films, j'ai toujours remarqué, qui étaient particulièrement importants pour créer une relation avec l'artiste cinéaste Agnès. C'était d'une part Les Glaneurs et la Glaneuse, mais aussi, et aussi important, Sans toi ni moi. C'est les deux films qui sont les films, à mon avis, qui ont marqué les spectateurs qui découvrent son œuvre le plus. Après, ça continue, ça. Le bonheur, c'est L'une chante, l'autre pas, c'est Cléo, c'est Les plages d'Agnès, où on découvre le parcours d'une femme extraordinaire. On peut, en tant que femme surtout, seulement être admiratrice, comment elle a pu tracer son chemin à partir d'une époque jusqu'à notre époque, dans laquelle on peut toujours seulement espérer de trouver des bribes qu'on peut mettre à son propre compte.
Et cependant, on est quand même obligé de constater aujourd'hui, avec le recul du temps, qu'elle n'a jamais été honorée véritablement. Certes, elle a eu un Oscar d'honneur aux États-Unis, mais d'honneur, pas un vrai Oscar. Au Festival de Cannes, elle a eu droit à des hommages, mais elle n'a pas eu droit à des distinctions et encore moins à la Palme d'Or. Elle n'a jamais été présidente de jury. Donc pourquoi à la fois cet amour, cet engouement, cette reconnaissance et en même temps cette marginalisation?
C'est une très bonne question. Il n'y a que des mauvaises réponses. Je n'ai pas fait attention maintenant à quel type de prix. Peut-être, en quelque sorte, moi j'ai seulement vu un engouement merveilleux pour ses présences à Harvard. Il fallait ouvrir une deuxième salle pour projeter les débats en sa présence. L'exposition qui était très modeste, mais c'était Les Veuves de Noirmoutier, c'était l'exposition la plus visitée au Carpenter Center à l'époque où j'ai fait cette exposition. D'ailleurs, c'était la première installation vidéo aux États-Unis. Lorsque j'ai fait l'autre rétrospective et exposition à Chicago, c'était une exposition qui a été considérée comme une des meilleures de Chicago de l'année. Donc peut-être, c'est pas les grands prix, mais c'est les découvertes, l'échange avec l'œuvre. C'est peut-être aussi un reflet d'Agnès. C'est pas le nombre de prix, et pourtant elle en a eu énormément. Mais c'est vraiment cet rapport très étroit qu'elle engage avec le spectateur. Donc elle est portée dans les cœurs, dans les têtes. Et puis bon, les prix, c'est peut-être pas aussi important, parce qu'ils vont seulement prendre la poussière. Mais Agnès, dans les cœurs des spectatrices et des spectateurs, ne prend pas de poussière.
Vous avez évoqué cette installation vidéo qui était la première à être vue aux États-Unis, Les Veuves de Noirmoutier. On peut dire que dans tous les domaines, art plastique, cinéma, et à l'intérieur de cette discipline cinématographique, aussi bien dans cette manière de... Et photographie, évidemment, n'oublions pas la photographie. Mais on peut dire qu'aussi dans le cinéma, cette manière de cadrer, cette manière d'utiliser la couleur comme une matière, là je pense au bonheur, cette matière d'innover aussi en mettant la caméra à l'épaule, là je pense à Cléo de 5 à 7, etc. On s'aperçoit qu'elle a été une précurseuse. Aujourd'hui, elle n'est rangée dans aucun des grands courants du cinéma mondial, alors que son œuvre, comme vous venez de le faire remarquer, atteint quelles que soient les latitudes géographiques. Son œuvre est universelle, elle peut être reçue et émouvoir des populations aux quatre coins de la planète, parce qu'elle s'adresse effectivement à notre cœur. Vous la rangeriez où et comment, si vous aviez à la catégoriser, Dominique Bluer?
Agnès Varda est une des plus grandes cinéastes du monde.
Carrément.
Ah oui. Au niveau de son œuvre, au niveau de sa inventivité, elle s'est renouvelée tellement de fois au cours de sa carrière. Elle est inclassable, mais c'est une des plus importantes auteurs et créatrices, à mon avis, qui a existé.
Alors, tout à l'heure, elle parlait de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard a été un ami très proche d'Agnès Varda, mais aussi de son mari Jacques Demy. Ils ne se sont pas quittés pendant extrêmement longtemps. Ils ont partagé les mêmes luttes, la même vision du cinéma. D'ailleurs, dans Cléo de 5 à 7, Godard joue comme personnage à l'intérieur du film d'Agnès Varda. Et cette référence à Jean-Luc Godard et à l'amour qu'elle avait pour un certain cinéma de Jean-Luc Godard a perduré jusqu'au film Paysage Visage, puisqu'il y a cette séquence assez bouleversante où Agnès Varda va aller frapper à la porte de la maison de Jean-Luc Godard à Rolles, et puis il ne va pas répondre, manifestement pourtant il est dans la maison, donc elle va laisser un petit mot, et finalement ça sera le silence de Godard qui continue aujourd'hui, qui est un peu pesant, puisque Agnès a disparu et Jean-Luc est heureusement parmi nous. Est-ce que vous rangeriez Agnès dans la nouvelle vague, Dominique Bluer?
C'est une question qui est à la fois importante et sans importance. La nouvelle vague a fait des vagues. La nouvelle vague, au sens strict, c'est le cinéma d'un certain groupe de garçons. De notre côté, Agnès Varda, si on veut la classer dans un groupe, c'est bien sûr la rive gauche. Et les cinéastes dont elle a été beaucoup plus proche au niveau de la créativité, comme notamment Alain René et Chris Marker, qui ont commencé nettement plus tôt que les garçons de la nouvelle vague, qui n'ont pas été comme les garçons de la nouvelle vague des critiques, qui ont ainsi pu faire leur propre promotion avant de commencer à faire leur cinéma. Mais ça concerne seulement les débuts. Donc oui, si on veut enseigner, moi d'ailleurs, quand j'enseigne, et je suis amenée à enseigner la nouvelle vague, j'enseigne Cléo de 5 à 7, qui malheureusement n'a pas été toujours perçu comme le film d'excellence d'enseigner les qualités esthétiques de la nouvelle vague, les inventions. Mais au-delà de ça, bon, Gilles Deleuze l'avait tellement bien résumé, c'était de changer de type de personnage, donc d'avoir des acteurs qui portent le regard et qui ne sont plus regardés, un cinéma de balade avec un aile et deux ailes, donc on se souvient que Cléo marche, on se souvient aussi que Cléo chante, donc de faire de l'acte, donc de le souligner ça, l'acte de regarder, bon, il parle d'un cinéma de voyeur, l'essence même du changement de radical qui s'est effectué à cette date-là. Et c'est Cléo de 5 à 7 qui symbolise ça encore plus que tous les autres films qu'il mentionne. Parce que les Cléo, c'est de partir d'être regardé à un personnage qui regarde la réalité. Donc, vous voyez, bon, à la fois, je trouve ça futile, et en même temps, bien sûr, c'est son œuvre est peut-être encore plus utile pour enseigner, parce que ce que signifie certains changements radicaux que la nouvelle vague a effectués, sont passés par les films qu'on, d'habitude, on trouve au programme pour enseigner ce type de cinéma.
Dernière question, Dominique Bluer. Agnès Varda se singularise aussi par sa générosité, mais aussi par sa modestie, et aussi par le fait qu'elle aimait admirer, et par cette curiosité qui l'a menée toujours plus loin. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2019, il y a des fils, des filles, des petits-fils et des petites-filles, petites-filles, d'Agnès Varda, où ça ne fait que commencer? Parce qu'elle donne tellement envie aux jeunes générations de prendre les manettes.
Il y a, à mon avis, à quasiment à toutes les générations, des filles ou des femmes et des hommes qui partagent son regard sur le monde et sa manière d'approcher le cinéma. Et ça peut seulement continuer, que ça soit au niveau des jeunes gens qui commencent à faire du cinéma et qui sont très inspirés par sa manière de faire du cinéma que par des gens qui l'ont fait par le passé, qui sont déjà reconnus.
Ben merci infiniment Dominique Bluer. On va continuer à pouvoir écouter Agnès Varda tout de suite après la musique. On va écouter un entretien absolument extraordinaire qu'avait fait Serge Danet dans cette émission de France Culture, qui d'ailleurs était un rendez-vous qu'on ne ratait sous aucun prétexte. C'était tous les samedis et ça s'appelait Microfilm. Un entretien de Serge Danet avec Agnès Varda, archive INA, 8 décembre 1985.
quand tu souris et quand tu ris.
C'était les Rita Mitsuko, Marcia Baila, issus de la bande originale du film Sans toi ni loi. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le numéro 2 de la semaine consacré à Agnès Varda. Place à l'entretien d'Agnès avec Serge Danet dans Microfilm, archives INA, 8 décembre 1985.
Alors pour aller très vite, je dis que Mona, donc, c'est le personnage, je dirais pas unique, mais archi-central de Saint-Ouen-Iloy. Et lorsque le film finit, on a pas mal d'éléments qui forment un kaléidoscope assez complet. Mais le kaléidoscope ne donne pas le secret du personnage, qui est un personnage qui, tout simplement, vit sa liberté dans une non-compromission avec tout. Première question, qui est une question donc presque de journalisme, Agnès Varda elle-même, heureusement surprise par les bons échos du film, enfin ce qui lui en revient déjà, se trouve dans la situation de se demander à travers les réactions des gens qui est Mona et pourquoi Mona intéresse tout d'un coup d'une manière aussi évidente les gens.
Oui, je n'utiliserai pas le mot de liberté pour Mona, j'utiliserai plutôt le mot de rébellion. Si je cherche comment j'ai senti Mona pour ce qu'elle pouvait me dire, parce que bon, disons, je dois commencer par établir tout de suite, Mona m'échapperait, Mona ne me dirait pas tout. Moi qui écrivais Mona, j'avais d'emblée établi la règle du jeu. Mona serait quand même insaisissable. Et la seule, je ne peux pas dire personne, mais qui saisirait Mona, c'est le froid. Et l'idée que le froid saisirait Mona, mais pas moi. Bon, je me suis déjà sortie de la psychologie. Je ne sais pas pourquoi Mona est sur la route, je ne sais pas si son papa, sa maman, son machin, son amant, je ne sais pas quoi, quel drame social. On commence, Mona est sur la route. J'arrive déjà quand elle est sur la route. Moi, ce qui me frappe, j'ai pensé souvent à ces camions. Vous savez, on dit, ils roulent pour nous. Moi, j'ai l'impression que Mona marche pour nous. Voilà. Et qu'elle marche notre rébellion. Elle la marche autrement. Eh bien, j'ai poussé un personnage, foutez-moi la paix. Ben, on lui fout la paix éternelle, hein. Ça va loin. Bon. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette rébellion qui n'a pas de cause, qui n'a pas d'idéologie, qui n'est pas du tout 68 art, 70, 75. Qui est marqué par quelque chose qui vient de loin et qui s'est intensifié récemment. Ce truc de foutez-moi la paix, je veux entendre parler de rien. J'ai imaginé cette jeune femme, jeune fille, qui comme ça, qui part de rien, enfin, qui part de la mer, et qui, de plus en plus sale, veut de plus en plus qu'on lui foute la paix. Elle est un peu repoussante, je l'ai voulu, tout abîmée, toute sale. Et disons, il y avait les deux sujets qui étaient le froid et la saleté. Ça, c'était mes sujets. Bon. Maintenant, il arrive que Mona existe, ça y est, Mona existe. Hein. C'était une idée que j'avais, plus Sandrine Bonnaire, qui, à mon avis, a amené un incroyable talent au personnage, parce qu'elle est si violente dans chaque instant, si présente dans chaque petite chose que je lui ai demandé de faire, puisqu'il s'agissait de comportement, de gestes. Cette chose-là, elle l'a fait si violemment qu'elle est tout à fait crédible. Et qu'on comprend que c'est vital. Et que tous les personnages qu'elle rencontre, comme ils ne peuvent pas l'attraper, nous disent plus sur eux que sur elles. Bon, ça c'est un petit jeu de miroir, il n'y a pas de doute. Alors, je savais que le film, je le trouvais bien fait, moi. Je l'ai bien fait, j'ai l'impression d'avoir fait bien mon travail. Mais effectivement, quand le premier jour, c'est-à-dire avant-hier, on a commencé à me dire, il y a beaucoup de monde qui vient, alors on aurait donc un résultat qui serait dans la sympathie qu'il y a pour Mona. Sympathie qu'elle décourage. La sympathie se porterait sur tous les personnages qu'elle rencontre et sur une façon de rire de leur décalage, de leur façon d'aller vers Mona en la refusant. Ou de faire un petit geste vers elle, mais de reculer. Et cette limite d'une éventuelle générosité, d'une éventuelle compréhension, cette limite que je croyais être un film tout à fait noir et qui aurait pu faire peur à tout le monde, cette limite semble amusante, en fait. Même si Mona est complètement noire d'un bout à l'autre et qu'on sait, puisqu'on le sait par le début, qu'elle est morte de froid. Je ne sais pas si c'est un sourire et un rire ou un amusement de malaise. Moi, j'ai fait le film avec l'impression que ce serait un malaise vivifiant, disons. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de malaise pendant qu'on le voit. Je ne sais pas, on veut bien des marginaux, mais on veut qu'ils veuillent se recycler. On veut bien des pauvres qui soient propres. On veut bien des chômeurs, mais qu'ils aient envie de travailler. Elle ne veut rien.
Ce qui est très impressionnant dans le film, aussi bien par ta façon de filmer que par le personnage même de Mona, c'est qu'on essaie de culpabiliser personne. Et là, il y a quelque chose de frais, mais dans le sens aussi un petit peu intrigant et inquiétant, qui est, de toute façon, s'il faut aller dans la solitude, s'il faut aller dans le refus, il faut y aller à tombeau ouvert, sans aucune contrepartie et sans bouc émissaire. Et en même temps, la question alors qu'on se pose, c'est que ce genre d'histoire, ce genre de sujets ont été traités déjà au cinéma, mais toujours avec un arrière-plan, disons, spirituel ou même carrément religieux, parce qu'il y a ça chez Bresson, par exemple. Il y a une manière de dire non aussi. Pickpocket, mouchette.
Mais c'est l'orgueil.
C'est l'orgueil, c'est la sainteté, c'est je suis le déchet humain, et puis voilà, basta. Ça doit quelque part avoir avec vous, mais moi je ne veux rien savoir de l'effet que j'ai sur vous. À la limite, je préfère m'intéresser au paysage, marcher dans la nature. Moi j'ai relevé dans le film la seule fois où elle donne une sorte de vœu, enfin quelque chose qui lui plairait bien. Elle dit j'aimerais garder des maisons. Et moi j'ai utilisé ça dans mon article en disant il y a quand même un contenu positif.
Je voulais te répondre à ça, une petite chose. Écoute, garder les maisons. Je voulais te dire que ça m'a beaucoup ému que tu dises ça parce que je me suis rappelé quand j'ai fait La Pointe Courte, tu vois, c'est il y a plus de 30 ans, il y a un plan où il y a un pêcheur qui est au bord de l'eau et il tient un bâton comme ça, le bâton qui sert à taper la mer quand on veut faire sauter les poissons dans les filets. Et dans le dialogue que je prêtais à Noiret et à Montfort, il disait de ce pêcheur, il garde le paysage. Et c'est toi, en écrivant ça dans ton article, qui m'a fait remonter à quel point j'ai l'idée que cette chose essentielle qui est l'espace des paysages que nous aimons ou des paysages qui nous ont, je sais pas, habités ou qui nous habitent, est quelque chose de très précieux, effectivement. Et ça m'a troublé que tu l'écrives parce que je serais jamais rappelé, bien sûr. Mais par rapport à ce que tu dis et tout ce que tu dis, qui est si, j'allais dire, si brillant et qui est une analyse comme ça de la situation presque sociale de Mona, on peut en parler parce que le film est fini. Mais moi, je ne travaille jamais comme ça. Je n'ai jamais réfléchi à tout ce que tu dis là. Parce que je me suis vraiment placée quand j'ai fait ce film. Cette impulsion que je t'ai dit, le froid, la saleté, les espaces, Mona que je ne comprends pas. Et à partir de là, j'ai vraiment essayé de travailler comme les peintres font sur le rendu, sur la texture, sur la matière même de cette chose-là que je racontais. C'est-à-dire que on dit solitude maintenant, on discute solitude, berger, tout ça. Mais moi, je me disais, si j'arrive à montrer que quand on a un seul bouson et que le zip se coince, ça c'est la solitude. Quand on a une seule paire de godasses et qu'elle fait mal, ça c'est la rébellion de taper avec une pierre sur son soulier. Elle se bat avec son soulier. Quand elle mange les sardines à l'huile toute seule comme ça avec ses mains, que l'huile dégouline et tout ça. Bon, non seulement, pour moi, il y a l'odeur de la sardine, la texture de l'huile. Il y a ce côté des choses qu'on fait, où on touche, où on se salope exprès. Et en même temps, il y a pour moi, par exemple, des choses d'enfance qui restent. Quand, par exemple, elle s'est couchée dans son duvet n'importe où, bon, une fois c'est le cimetière, le lendemain elle se réveille, c'est la neige. Ben, elle ouvre sa petite tente, elle regarde, et elle l'a merveilleusement fait. Je lui ai dit, tu vas regarder la neige, comme quand on était petit, qu'on ouvrait la fenêtre et qu'on disait, maman, il a neigé. C'est-à-dire que cette solitude, elle la vit dans la texture des choses qu'on touche et qu'on fait à chaque instant, quand on existe tout seul et qu'on en est content. Alors au fond, je ne sais pas jusqu'à quel point elle ne souffre pas beaucoup du froid, de la faim. Elle tape son pain dur et comme ça. Toutes ces choses-là, ce sont des bruits. Par exemple, quand on a marché, j'ai beaucoup demandé à Mugel, l'ingénieur du son, qui est un bon. Je lui ai dit, je veux entendre ses pas, mais je veux entendre ce petit frottis du blue jean, du velours, quand on marche. Les cuisses, comme ça, le bruit des cuisses en velours qui frottent. Bon, moi, c'est ça sur quoi j'ai travaillé.
Alors là, je t'interromps avec une totale sauvagerie. Est-ce que c'est pas quand même ce qui arrive à un cinéaste qui n'a pas l'âge de Mona, qui a déjà une carrière de cinéma derrière, d'accepter de ne plus comprendre les personnages psychologiquement, socialement, de les respecter en tant qu'on ne les comprend pas aussi, et de regarder ce qu'il y a autour d'eux et ce qu'ils éclairent par leur présence un peu butée. Je pense par exemple qu'il y a un moment où Antonioni, il a toujours été peintre par exemple, et puis il y a un moment où il a dû penser que même l'incommunicabilité, qui était le thème des années 60, c'était ringard, que c'était après tout, bon, tant pis, les gens communiquent pas. Et puis, il a commencé à regarder autour des personnages, et il est redevenu complètement un peintre dans les derniers films. Bon, je parle de ça parce que j'en ai parlé avec Tanner, j'en ai parlé avec Wenders, il n'y a pas très longtemps ici. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'âge, pour un cinéaste, et pour un cinéaste de cette génération-là, ou de ces générations-là, depuis la fin de la guerre jusqu'aux années 60, disons Wenders, qui fait que cette sorte de, pas de démission, mais pas trop envie d'intervenir d'une manière tonitruante par rapport au social, à un moment où, de toute façon, on ne sait plus du tout ce que c'est que le social, ça se transfère dans une sorte d'amour de la matière filmique, mais
de la matière
dans
vivante.
Sa ressemblance avec la peinture.
Mais de la matière de ce qu'est notre vie. Tu as une formule assez bien, là, tu as dit que c'était... Tu m'as dit envie de tout comprendre et envie de seulement montrer.
Voilà, c'est le seulement montrer qui est la
croix
du peintre.
C'est le seulement montrer qui devient un plaisir réel de filmer. Plaisir que j'éprouve peut-être encore plus que quand j'étais plus jeune. Oui.
C'est plus qu'un plaisir, c'est une jouissance.
Oui. Enfin, plaisir, je sais pas. Enfin, plaisir, c'est plaisir, quoi. Moi, chez moi, c'est assez vif. Quand je tourne comme ça, la matière de ces paysages froids, la boue, les fossés qu'on brûlait comme ça. Même l'odeur, elle passe pas dans le film, mais l'odeur des fossés qu'on brûle, et puis après, il y a des fois un peu d'eau par-dessus, puis ça se met à fumer. Bon, j'ai voulu que Mona, on peut dire, crève, en tout cas, juste avant qu'elle crève, dans un de ces fossés noirs, comme ça. Mais la matière de cette herbe brûlée, qui fume un peu, ses costumes, la couleur de ses costumes, qu'on avait choisi quand même, avec beaucoup de sang.
Il y a quand même un très grand parallélisme, parce que d'un côté, Mona se détourne plutôt de ses semblables, y compris de ceux qui, en apparence, lui ressemblent, et a quelque chose avec le paysage, puisqu'elle y marche, puisqu'elle y est quand même heureuse quelque part. Et vous, cinéaste, vous la suivez parallèlement, c'est-à-dire, vous aussi, vous avez un grand plaisir finalement à filmer le froid, les odeurs, la matière, les couleurs. Et on dirait que là-dedans, il y a une sorte de double ligne de fuite, comme ça, parallèle.
Mais c'est pas du tout une fuite.
Une ligne d'horizon.
Mais c'est parce que la psychologie m'embête de plus en plus, mais à un point que je peux pas dire.
C'est ça, un peintre.
Et la psychologie, oui, mais moi je l'étais déjà pas dans mes films il y a déjà 30 ans.
En plus, quand même.
Oh, pas tellement.
Un peu plus. L'une chante, c'était plus psychologue.
Mais Cléo de 5 à 7, c'est une espèce d'errance vers ce trou de la question de savoir comment est-ce qu'on va vivre. Moi, je me souviens très bien de l'idée que j'avais que c'était un squelette qui enlaçait une belle femme, comme dans les peintures allemandes. C'était quand même ça qui habitait le film. Je veux dire, moi, j'ai toujours travaillé là-dedans. Mais alors, plus ça va, je pourrais dire, plus je suis larguée par le cinéma commercial, ce qui a été quand même mon cas réel, plus je me sens libre, justement. Et le privilège de l'âge dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas seulement de se dire... On devient peintre, on se décroche des problèmes. C'est le contraire.
Non, c'est qu'on les regarde de biais,
on les regarde autrement. Et il y a surtout que j'ai une réserve, moi, maintenant, comme tout sans doute les cinéastes qui ont pris un petit peu d'expérience, cette réserve d'émotion et cette réserve de toute petite texture audiovisuelle comme ça est si riche maintenant qu'on peut filmer n'importe quoi, j'allais dire. Et alors ce n'importe quoi, c'est justement une fille qui fait n'importe quoi, qui veut n'importe quoi, mais qui veut rien vraiment. Et dans ce non-sujet... peut se libérer le plaisir de filmer les gens, y compris, alors ces gens d'un pays que j'aime, c'est vrai, les gens du Gard, je les aime beaucoup, comme avec cette espèce d'incroyable charme qu'ils ont. Parce que c'est un charme, c'est un vrai charme. Moi, j'ai un charme avec ce garagiste, avec cet ouvrier qui a le bonnet jusqu'aux yeux, avec cette vieille dame qui me fait tordre de rire tellement elle rigole. La bonne sentimentale, comme ça, évidemment que c'est une bonne typée, prototypée. Mais elle me plaît parce qu'elle est si gentille, si gentille. Et puis tout d'un coup, sur un coup de jalousie, elle est vacharde, elle est salope et tout ça. Ce genre de choses, ce n'est pas que je sois loin de ça. C'est que ce sont ces revirements hors de la psychologie, ces revirements de l'instant. Par exemple, j'ai demandé à Sandrine Bonnet, je la nomme elle comme actrice là, parce que comme comédienne, elle était complètement avec moi sur ce coup-là. Je lui ai dit, voilà, t'es costaud, tu tiendras le coup, tu survis, t'es jamais victime, mais tu craqueras toujours pour rien, pour un cadre dans une fenêtre de ruine, un type qui passe au loin, ce moment qui fait que insaisissable te saisit, et tu pleureras dans ces instants-là. Et elle a aimé ça, elle l'a fait tellement formidablement, tellement spontanément, qu'elle s'est complètement branchée, elle qui pourrait être ma fille, pour pas dire ma petite fille, elle s'est complètement branchée sur mon désir de ce personnage raide. Et alors ça lui plaisait, pourquoi? Parce qu'elle est une jeune actrice et que dans tous les films on lui demande de montrer ses fesses, il y a un côté aussi bête que ça, on lui fait faire des scènes où elle est libre, libre sexuellement bien sûr, et que cette liberté-là, toute intérieure, toute rageuse, l'a fascinée complètement, comme rôle de comédienne. Elle voulait être encore plus dure que ça, elle avait peur que la rende sympathique, de temps en temps elle me disait, mais faut pas que tu fasses ça, je vais être trop mignon, t'inquiète pas. Et ça c'était magnifique, cette petite jeune fille, parce qu'elle vient d'avoir 18 ans, elle l'a eu après le film. Cette donc très fraîche jeune fille, on peut dire, qui allait comme ça, en courant vers ce personnage fermé, buté, sale, pas séduisant. Elle était attirée par ça comme une sorte de contrepoison de ce qu'elle est censée distiller dans chaque film, c'est-à-dire cette extraordinaire sensualité, liberté naturelle qu'elle a et qu'elle aura dans d'autres films, bien sûr.
Bien sûr. Non, en gros, pour paraphraser Claudel, elle veut tout et rien d'autre. C'est quand même difficile, le tout.
Ah, c'est beau.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu autobiographique quand même dans le personnage de Masha Merrill?
Non, à part que j'aime les platanes, que j'aime les arbres et que donc c'est une de mes... Non, autobiographique, non. J'ai pris en stop des gars et j'ai pris aussi des filles, je veux dire. Alors sur ce plan-là, j'ai pris une routarde, plus une autre. Plus... Dans mon enquête, j'ai fait plein de choses qui m'intéresseraient et qui me nourriraient, mais mon petit imaginaire limité malgré tout. Mais... Je suis un peu tout le monde. Je me sens autant Mona que la vieille dame, que Masha Merrill, que je ne sais pas. Je ne peux pas arriver à me mettre juste dans le rôle de cette dame, bon chic, bon genre, 40 ans, qui sait tout sur tout. Bon, je suis un petit peu bavarde et un peu je sais tout. Je ne suis pas du tout comme une universitaire charitable, j'allais presque dire. Moi, je suis beaucoup plus impulsive. Quand j'ai pris des routards sur la route, je les ai logés chez moi. C'était plus intéressant que ça pour moi, mais... Oui, on a eu tendance, j'ai senti qu'il y avait un petit peu une idée comme ça. Non, moi je me sens un peu tous les personnages parce que je les aime beaucoup. Et je me sens intriguée moi-même par mon travail, comme je suis intriguée par Mona, dont je ne sais pas tout.
Par exemple, bon, on n'a pas beaucoup parlé de ça au début, mais on peut en parler maintenant. C'est que tu étais quand même extrêmement abattu à un moment, quand je t'ai rencontré, sur la difficulté à faire des films et sur le fait qu'il fallait à un moment foncer dans le tas.
Oui, je crois que jamais, dans ma presque longue carrière maintenant, je n'ai été aussi loin, moi aussi, dans le culot. Je veux dire, dans le culot de partir sur une pulsion, une sensation, une urgence absolue, le peu d'argent que j'ai trouvé, prendre des risques financiers qui sont au-delà de ce que je peux raconter, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais quand même qui existent comme réalité. Jamais je n'avais trouvé une équipe aussi motivée, qui est rentrée dans cette aventure avec une sorte de fureur. Jamais je n'ai été aussi loin dans ce que je considère comme le cinéma indépendant. Et je ne dis pas le cinéma d'auteur, parce qu'il y en a marre de dire ça, je ne peux plus l'entendre. Mais le cinéma inspiré.
Tu n'es pas la seule.
Le cinéma inspiré, en admettant qu'une inspiration crée un mouvement et une énergie si forte que je peux dire aussi que jamais je n'ai été aussi inspiré en cours de film. Je ne sais pas si le film est bien. Il est, selon mon inspiration, le résultat, j'allais dire énergétique, même si c'est noir, de cette pulsion d'inspiration qui est peut-être une sorte d'énergie du désespoir, parce qu'effectivement j'ai passé par des moments assez durs, mais j'ai retrouvé une telle bonne humeur, pas dans ce film-là d'ailleurs, dans un film court que j'ai fait juste avant. Enfin, en fait, en 84, je me suis dit, j'ai 30 ans de métier, maintenant je suis libre. Et cette ivresse de me donner des droits, comme ça, sur un anniversaire de 30 ans, m'a mis en route un processus que je sens, pour moi, excellent, parce qu'il me fait travailler. Il me fait travailler, je dis bien ça, c'est pas faire des films, mais je réfléchis autrement. Il me semble donc travailler mieux. Mais je m'entoure aussi de gens, dont cette merveilleuse Sandrine Bonnaire, qui joue ce jeu avec la même fureur. Il y a quelque chose dans le film qui peut-être alors, malgré que tu parles d'une génération qui laisse tomber, qui compte sur ses propres forces, qui n'a pas beaucoup de valeur morale, en tout cas qui n'en recherche pas.
Ah non, au contraire. Non,
mais moi je crois pas que c'est ça, c'est pas des questions de valeur morale. C'est des valeurs d'énergie maintenant qui sont mises en place.
Ben, c'est les deux à la fois.
Non, c'est la survivance d'une énergie à utiliser de telle ou telle façon. Je crois que ça n'a pas de voir avec la morale. Et moi, de toute façon, d'une certaine façon, je ne suis pas très intéressée par la morale non plus.
You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you. From the start, didn't know you were gone. Till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. Could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me. And I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me. Till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you.
Et c'est avec The National Lighters que nous nous quittons ce soir, en espérant vous retrouver demain pour le 3e épisode consacré à Agnès Varda. Ce sera Agnès, les femmes et les actrices, avec notamment Jane Birkin et Isabelle Huppert. Merci à Anne-Sophie Dazard et à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Élodie Royer pour son travail remarquable sur les archives. Et merci à la réalisation si inventive de Lilian Allôme. Merci aussi aux éditions Arte pour le coffret des documentaires d'Agnès Varda et pour tous les autres films. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas qui, comme chaque soir, vous emmènera en voyage.